Je vous l'apprends, ça vient de tomber. Là, il y a un préavis de grève qui a été déposé du 5 au 9 décembre au niveau de la SNCF. Donc ça va être très compliqué dans cette période de prendre le train. Hein. Tout sera visiblement bloqué. En tous les cas, ça vient de tomber à l'instant. Hein. Moi, j'ai eu l'info par nos confrères de France 3. Hauts-de-France. En tous les cas, voilà, la visite se continue. Là, les élus sont justement en train, mais ils sont encore au stand de la SNCF en fait, hein, avec justement un véhicule adapté au train, donc qui est en train d'être présenté pour justement parler un peu de ce qui se fait au niveau de l'accessibilité. Hein. C'est vraiment quelque chose, un espèce de grand transporteur de fauteuils en fait. Hein. Pour justement permettre, faciliter le déplacement sans doute d'un train à un autre, d'un wagon à un autre, et pouvoir aller plus rapidement justement sur les quais. Hein, voilà. Donc ça, c'est fait partie des innovations que propose justement la SNCF dans ce domaine.
D'accord, très bien Jean-Philippe. Bien, nous, dans quelques instants, on va se retrouver avec une nouvelle interview en compagnie de Lucie, mais petite pause musicale avec Simon Garfunkel sur Radio Plus. Et Simon & Garfunkel, ça arrive sans plus tarder. Et nous voilà de retour sur Radio Plus à l'occasion de ce salon autonomique. On va retrouver Lucie avec une nouvelle invitée au micro de Radio Plus. Il s'agit d'Ayet Louaï qui a fondé Un Regard pour Toi. On va en savoir plus en compagnie de Lucie. Lucie, c'est à toi.
Oui, bonjour Ayet. Attendez. Bonjour.
Ça, ce sont les aléas du direct. Bonjour. Je vais m'occuper de régler tout ça. Vas-y.
Donc, votre association Un Regard pour Toi propose un service de personal shopper. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est ?
Alors, l'association Un Regard pour Toi, donc, elle accompagne les non-voyants, les malvoyants vers l'autonomie vestimentaire. Et effectivement, on a des bénévoles qui sont formés à la déficience visuelle pour accompagner les malvoyants et les non-voyants en boutique pour les aider à choisir des vêtements, des tenues selon leur goût et leurs besoins.
Et comment ça se passe concrètement ?
Alors, pour rejoindre l'association, donc en fait, on recrute des bénévoles qui postulent. On les reçoit en entretien puisqu'on les sélectionne. En fait, il faut forcément aimer le shopping, etc. On les forme par rapport au handicap. Et ensuite, on organise la séance shopping avec le bénévole et l'adhérent directement après en magasin.
La personne malvoyante vient avec vous pour ces séances de shopping ou ça se fait sans sa présence et ensuite vous apportez les vêtements ?
Ah non, pas du tout. En fait, le bénévole, il donne, donc on organise la séance à l'association et le bénévole, il retrouve la personne soit sur un quai de métro ou de tramway ou devant le magasin. Mais la personne malvoyante, elle est avec le bénévole, c'est son shopping à elle. Donc c'est pour ça que c'est plus des conseillers de mode que des personnel shoppers. C'est vraiment, ils sont ensemble en fait pendant le shopping.
Vous-même être malvoyante, est-ce que cette association est née d'une expérience ou d'un besoin que vous-même avez eu ?
Alors, elle n'est pas née d'un besoin que moi j'ai eu directement, parce que moi j'ai été conseillée par ma famille, donc du coup j'avais une famille qui était portée sur le vêtement. Par contre, effectivement, j'ai constaté autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes malvoyantes qui n'avaient pas forcément cette chance-là. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une association qui accompagne les malvoyants pour les aider dans l'habillement. Mais aussi, ça nous permet d'être autonomes par rapport à ses proches. Même si on a de la famille, des amis, on peut toujours aller faire du shopping avec eux. Mais aussi, on peut passer par l'association pour être autonome et puis libre dans notre manière de s'habiller, etc. Parce que c'est important de s'habiller en fonction de ses goûts. Et le bénévole, il n'est pas là pour choisir à la place de la personne, mais il est vraiment là pour être à l'écoute de son style, etc. Et il met en retrait ses goûts, justement.
Concrètement, quel genre de public vous avez ? Un public plutôt jeune, un public plutôt actif ?
On a un peu de tout en fait. Voilà, on n'a pas de, il n'y a pas de tranche d'âge particulier. En fait, on a de tout. Après, au niveau de nos bénévoles, on a, on va dire des jeunes. Et voilà, on a beaucoup plus de jeunes, j'irais côté bénévole en fait.
Justement, comment devient-on bénévole pour cette association-là ?
Alors, pour devenir bénévole, il faut contacter l'association. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site internet sur www.unregardpourtoi-du6asso.fr et après vous remplissez le formulaire nous rejoindre et on vous rappelle assez rapidement pour vous faire un premier entretien et ensuite un entretien physique et c'est là qu'on décide si on vous prend comme bénévole, si c'est le cas on vous forme après à la déficience visuelle, etc.
Vous parliez que le premier critère pour être bénévole c'est d'aimer faire du shopping et j'imagine aussi d'avoir un certain sens du style sans vouloir...
Exactement, bah en fait c'est ça, il faut effectivement aimer le shopping, il faut avoir bon goût, il faut avoir l'œil parce que le rôle du bénévole c'est aussi le miroir de la personne, elle va lui dire bah voilà ce vêtement là il tombe comme ça, ça te va comme ça, etc. Donc il faut avoir un œil sûr parce que l'adhérent, la personne malvoyante se voit à travers les yeux du bénévole, donc en quelque sorte le bénévole il est le miroir de la personne.
Est-ce qu'il y a d'autres critères, des compétences particulières, des traits de personnalité à avoir, une expérience aussi peut-être ?
Non, il n'y a pas d'expérience à avoir. Il faut juste voilà, aimer le shopping et puis avoir être sympathique, dynamique. Mais il n'y a pas de critères autres que ça. Après, par contre, il y a tout l'aspect savoir-être par rapport au handicap, etc. Souvent, voilà, on choisit aussi nos bénévoles parce qu'on a aussi des personnes qui nous contactent mais qui ne sont pas à l'aise avec le handicap ou alors qui le font trop dans la compassion, dire bah tiens, je vais aller faire du bénévolat pour aider les handicapés, etc. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. C'est des personnes qui nous contactent déjà parce qu'ils aiment le shopping et c'est pour prêter ses yeux à une personne qui en a besoin et partager un moment convivial tout simplement.
Justement, pour cette question du savoir-être avec les personnes handicapées, les personnes malvoyantes en l'occurrence, est-ce qu'il y a des formations qui sont données, des conseils, des tuteurs au sein de l'association ?
Exactement, oui. Il y a des formations qui sont dispensées et après le bénévole, une fois qu'il est formé, on le met en séance shopping avec la personne malvoyante.
Une formation obligatoire, j'imagine ?
Oui.
Ça se déroule au début, c'est ça ?
C'est au début, voilà. C'est-à-dire qu'avant, ça se déroule une fois qu'on l'a validé, le bénévole. C'est-à-dire qu'on a dit, lui, il peut rejoindre l'association. Et après, on le forme, effectivement.
Pour quel genre d'occasion on vous sollicite ? Est-ce que c'est des occasions particulières ? Tout à l'heure, votre collègue me parlait de mariage. Est-ce que ça peut être au quotidien ?
Ben oui, ça peut être au quotidien. On a souvent des demandes plutôt pour la vie de tous les jours. Voilà, j'ai besoin, il y a un changement de saison, j'ai besoin d'aller acheter un manteau, etc. Ou alors ça peut être aussi pour un entretien d'embauche. Donc c'est vraiment toute occasion de la vie quotidienne.
Vous tenez compte des préférences en termes de marque du client ou alors ça peut être n'importe quoi ?
Non, ça dépend de ce que l'adhérent souhaite, s'il a déjà ses boutiques. Mais après, le bénévole, il peut aussi lui proposer des boutiques et lui faire découvrir des marques, justement.
Et typiquement, c'est quoi le genre de boutique que vous préconisez ?
Alors moi, j'en préconise pas. On n'a pas de... Voilà, enfin après, les personnes sont libres d'aller où elles veulent. Donc après, voilà, on reste sur du prêt-à-porter classique. Hein. Ça peut être Promode, Camailleux, Bershka, H&M, Mango, ou alors les grands magasins comme Le Printemps ou les Galeries Lafayette.
Je vais poser une question un peu pratico-pratique, mais est-ce que ces services-là, ça se fait quand ? Ça se fait toute la semaine, le dimanche, le samedi ? Quels horaires ?
Alors, ce sont des séances shopping entre, on va dire, une demi-journée, en semaine ou le week-end, selon les disponibilités des personnes.
Et est-ce qu'il y a un prix à mettre là-dedans ?
Alors, on part sur une adhésion de 10 euros par an et les séances sont gratuites.
Grâce à des dons, comment fonctionne l'association à ce niveau-là ?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des dons et puis on fait aussi, comme toute association, on fait des demandes de subventions, etc.
Ces dons viennent d'où ? Des particuliers, de mécènes peut-être ?
De particuliers et puis effectivement de mécènes, exactement. Mais on a toujours besoin de dons, donc si jamais il y en a qui sont intéressés pour nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don sur le site de l'association directement.
Si on est nous-mêmes une personne malvoyante et qu'on souhaite profiter de vos services, comment ça se passe ?
Alors, il faut nous contacter sur le fixe de l'association qui est le 09 82 51 17 60. 09 82 51 17 60.
Merci beaucoup pour votre temps. C'était Ayette Louaille, fondatrice de l'association Un regard pour toi qui propose des demi-journées de shopping à destination des personnes malvoyantes. Merci beaucoup.
Merci Lucie et on va avoir dans quelques instants Jean-Philippe en compagnie des élus qui sont en train de visiter effectivement ce salon autonomique où nous sommes en direct de 10h jusqu'à 17h. Et on va avoir bien sûr les élus dans un instant. J'attends. On les a, Jean-Philippe.
Oui.
Je
suis en compagnie de Geneviève Manarino, vice-présidente en charge du handicap au département du Nord. Bonjour. Le salon autonomique, c'est un moment important pour vous, pour le département ?
Absolument, c'est le lieu où tout le monde peut croiser les différentes actions qu'il mène, les entreprises, les associations, les politiques aussi. Moi je suis en charge de l'autonomie et donc dans ce salon on y trouve un peu toutes les solutions pour que la personne puisse rester chez elle le plus longtemps possible, pour qu'elle puisse être autonome le plus longtemps possible, qu'elle puisse être accompagnée comme elle le souhaite. Donc c'est formidable que tous les deux ans nous ayons ce salon ici dans le département du Nord, dans la région Hauts-de-France et puis sur la ville de Lille.
C'est très utile justement pour le département, pour les collectivités locales, un salon comme autonomique ?
C'est très utile parce que le département est financeur sur l'accompagnement des personnes, l'APA et la PCH par exemple, et ces financements, nous on veut aussi pouvoir y valoriser les aides techniques par exemple et aller vers ces nouveaux métiers, aller vers les outils qui vont permettre à la personne d'être d'être très bien accompagné. Donc pour nous c'est très intéressant, on rencontre nos partenaires, on les connaît, mais on rencontre aussi de tas de nouveautés qu'on se dit que finalement il y a de la création tout le temps sur ces sujets-là.
Et un petit mot justement sur les grands axes de la politique en matière d'autonomie au niveau du département.
La politique de l'autonomie au niveau du département, c'est une volonté, une vraie détermination pour que la personne fasse son choix dans un parcours, son choix de lieu de vie, et qu'on puisse autour d'elle y créer un maximum d'inclusion et pour qu'elle soit toujours citoyenne à part entière.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Merci Jean-Philippe et merci eh bien à notre invité pour ces quelques mots au micro de Radio Plus. Midi passé de 19 minutes sur votre radio. Je rappelle que vous nous écoutez en DAB+, également la radio numérique terrestre. On se retrouve également sur le 104.3 FM ou le www.radioplus.fr. D'autres interviews, d'autres invités à retrouver bien sûr d'ici quelques minutes. C'est en musique là que l'on va repartir, et pour ce faire, eh bien, je vous propose de retrouver un titre du trio vocal L.I.J. L'en mashup qui va nous rappeler l'été Summer 2016 sur Radio Plus.
It's me.
Girl up in my tea.
I was wondering if after all these years I'd like to meet
you in the
to
basement.
Go over everything.
Self-love.
They say that I'm supposed to heal ya, but I am the nurturing.
Panda.
Oh,
Panda.
And just forever. You know you make my world lighter. When I was down, when I was hurt.
They say that I'm supposed to heal ya, but I am the nurturing.
I know when the hotline bling.
Hello.
LJ à l'instant sur Radio Plus avec Summer 2016 et nous allons continuer les interviews en direct du salon autonomique. On retrouve Jean-Philippe pour parler cette fois chien guide d'aveugle, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait Julien, et je suis en compagnie d'Émilie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de développement au sein de l'association des chiens guides d'aveugles et notamment le centre Paul Corteville. Déjà, pouvez-vous nous présenter cette structure en quelques mots s'il vous plaît?
Alors, donc, l'association des chiens guides d'aveugles, c'est une association qui va favoriser la mobilité des personnes aveugles ou malvoyantes en remettant un chien guide ou une canne blanche électronique, et ce, gratuitement aux personnes qui nous en font la demande. L'idée, c'est de permettre aux personnes qui ont des besoins de mobilité de se déplacer de manière autonome et en toute sécurité.
Ça veut dire combien de personnes qui font appel à vous à peu près hein, est-ce que vous pouvez nous donner justement un ordre de grandeur du nombre de personnes qui vous sollicitent chaque année?
Alors chaque année, on va remettre sur nos deux centres de formation qui se situent respectivement dans le département du Nord et puis dans le département de l'Eure 50 chiens guides à peu près, et puis on va dire entre 10 et 15 cannes blanches électroniques puisque la demande fluctue évidemment d'année en année, mais voilà, c'est une moyenne sur les dernières années.
Et vous faites également des formations au niveau du centre Paul Corteville notamment, comment ça se passe?
Alors oui, l'utilisation d'un chien guide ou d'une canne blanche électronique n'est pas innée. On vous met un outil entre les mains, il faut apprendre à s'en servir. Et pour ça, on a une équipe de professionnels salariés qui sont tous dans un domaine bien spécifique, puisque c'est des formations accessibles via la Fédération française des chiens guides aveugles ou alors via la Fédération des aveugles de France. Et donc ces professionnels vont apprendre aux personnes aveugles ou malvoyantes se servir d'un chien guide, c'est-à-dire à être guidé et à conduire son chien guide ou à utiliser une canne blanche électronique correctement. Sans formation, avoir un outil entre les mains, c'est pas très utile. Nous, on fait de la sécurité avec nos outils. Sans ces formations, on n'est pas en sécurité, tout simplement.
Comment ça se passe au niveau des chiens qui deviennent chiens guides? J'imagine qu'ils sont dans une famille d'accueil avant, très spécialisée, très aguerrie sur le sujet, et que ce ne sont pas n'importe quel chien en fait. Hein.
Alors les chiens viennent en grande majorité d'un élevage spécifique, qui est un élevage national qui en fait va gérer la reproduction de chiens d'utilité, donc chiens guides et chiens d'assistance. Et donc c'est eux qui nous fournissent en fait les chiots qui vont être les futurs chiens guides de demain. Ces chiots en fait de l'âge de 2 mois à l'âge de 1 an vont effectivement être en famille d'accueil. Je précise, ces familles sont bénévoles. Elles s'engagent à former un chien de manière complètement sans contrepartie en fait, que la gratification et la fierté d'avoir participé à l'éducation d'un de ces chiens. Et puis à partir de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 2 ans, les chiens sont en formation sur les centres de formation directement et sont éduqués par les professionnels salariés de l'association pour apprendre les techniques de guidage à proprement parler. Donc les familles d'accueil en fait en font des très bons chiens de famille, des chiens à l'aise dans tous les lieux publics, dans la rue, se familiariser avec des environnements comme les gares, mais être à l'aise avec d'autres chiens, ne pas forcément tirer sur sa laisse, ne pas ramasser tout ce qu'on trouve par terre. Voilà, un chien qui va avoir énormément de cadres pour faire en sorte que plus tard, ce soit un chien qui soit à l'écoute aussi quand il va guider une personne. Vous êtes voyant, votre chien tire pour ramasser quelque chose, vous suivez du regard, ça vous... Au pire, ça vous tire dans le bras, ça vous déstabilise pas. Quand on ne voit pas, on a une traction qui nous emmène sur le côté. Potentiellement, on n'a pas pu voir ce qu'il y avait. Et ça peut nous mettre en danger. Ça peut être un trou, une bordure de trottoir, une très grosse flaque d'eau. Donc voilà, c'est un travail de base qui se construit dans le temps sur 2 ans.
Ce sont des races de chiens spécifiques?
Alors, la grande majorité des chiens à l'association sont des labradors, peu importe la couleur, mais on a essentiellement du labrador sable et du labrador noir. Et ensuite, on a quelques golden retrievers, quelques bergers allemands, et puis des chiens qui sont des bergers suisses, donc qui sont en fait des chiens tout blancs, qui ressemblent un petit peu à des bergers allemands, mais avec les poils plus longs et version blanche.
Alors, vous m'avez dit 50 chiens, je crois, hein, chaque année, c'est ça?
Oui, 50 chiens remis.
50 chiens remis, pour combien de demandes?
Pour combien de demandes? Alors, en fait, on a c'est un roulement, puisque les chiens qui vont être remis, ce sont des gens qui vont être sur leur année d'accompagnement, qui ont déjà réalisé l'accompagnement locomotion. Et il y a d'autres demandes qui entrent en fait en permanence. Donc, on va dire que sur 2 ans, on est à peu près sur 100 personnes qui sont systématiquement en demande, mais à différentes étapes de la demande, en fait.
Alors, il y a encore des endroits qui refusent l'accès aux chiens. Est-ce que, justement, vous essayez aussi de lutter contre ça, contre toutes ces idées reçues ?
Alors, on travaille, lorsqu'on remet un chien guide à une personne en situation de déficience visuelle, c'est en fait 15 jours, on travaille avec ce duo pour qu'ils se mettent en route et qu'ils apprennent à fonctionner ensemble. Dans ces 15 jours, les éducateurs qui sont sur le terrain vont pouvoir sensibiliser bien les endroits où la personne se rend régulièrement, le commerçant, le médecin, enfin voilà, vraiment tout type de commerçant, ça peut être le bar tabac, ça peut être la boulangerie, etc., pour expliquer le dispositif légal en vigueur concernant l'accessibilité des chiens guides, hein, sans tarification supplémentaire, accessibilité à tous les lieux publics sans port de muselière. Maintenant, il faut le faire en bonne intelligence pour sensibiliser, expliquer, amener la question du handicap et ne pas imposer en disant « c'est comme ça, vous n'avez pas le choix ». Donc nous, on le fait sur le terrain à l'occasion de ce travail de remise auprès de nos binômes. Maintenant, il y a une association nationale qui s'appelle l'Association nationale des maîtres de chiens guides qui fait ce travail-là l'année de prévention, de sensibilisation, de médiation et de régulation des conflits autour de l'accessibilité.
Mais les conflits, justement, avec cet accompagnement que vous faites donc les 15 premiers jours hein, de la remise du chien, cette technique permet aussi justement de faciliter les choses pour la personne qui bénéficie justement de ce chien guide d'aveugle.
Ah oui, exactement, c'est exactement ça.
Alors, si on souhaite également plus de renseignements sur les chiens guides d'aveugle, comment fait-on ?
Alors, vous pouvez aujourd'hui venir nous rencontrer également demain sur le salon autonomique. On est au stand C10, juste à côté de l'entrée visiteur. Sinon, tout au long de l'année, vous pouvez directement prendre contact avec le centre par téléphone ou alors en envoyant un mail également. Les équipes sont là pour orienter les personnes à partir du standard à l'intérieur de l'association, tout simplement.
Voilà. Et dernière question que je voulais vous poser, un salon comme autonomique, justement, c'est un moment important pour vous ?
Oui, c'est toujours un moment important parce qu'on rencontre des personnes qui sont aujourd'hui à un instant T dans une certaine demande et potentiellement on est en capacité de répondre à une partie de leurs besoins en matière de mobilité. Et on est présent sur tous les salons autonomiques parce que quand on perd la vue, on a des étapes à franchir et on n'est pas forcément prêt, dès qu'on a perdu la vue, à sauter dans le chien guide ou la canne blanche électronique. Et donc, on a besoin d'être là constamment, présent dans le temps et dans la pérennité pour rencontrer les personnes au bon moment. Oui, c'est important de pouvoir informer que les personnes puissent savoir qu'il existe des solutions et à un moment se saisir de ces solutions pour leur propre projet de vie. On fait de la mobilité pour que les gens continuent d'aller dans les lieux qui leur tiennent à cœur, se balader, aller au théâtre, parce qu'on peut aller au théâtre parce qu'on est déficient visuel, aller faire ses courses en accompagnant son époux ou son épouse, et comme on me l'a déjà fait savoir, pas en se cramponnant comme si on était invalide, mais de tout point de vue, quoi. Donc oui, on est là et c'est important, et on est ravis aujourd'hui d'être là avec toutes les autres acteurs qui proposent des solutions en matière d'autonomie pour les personnes en situation de handicap.
Alors, vous me faites bien de parler de la canne électronique parce que j'imagine, et c'est une question que j'ai oublié de vous poser, elle a évolué aussi, cette canne, aujourd'hui.
Oui, oui. Alors, nous, on travaille avec une canne qui est spécifique. On travaille avec le Tom Pouce 3 de la Fondation Visio. Et effectivement, c'est donc le 3, donc c'est la version 3 du boîtier, qui aujourd'hui, en matière de performance de détection, est plutôt très précis. Il y a une version 4 qui est en train d'être travaillée par le CNRS, puisque c'est un boîtier qui est développé par un laboratoire du CNRS. Et donc, on aura probablement d'ici quelques années une nouvelle version avec des performances encore optimisées, ce qui nous permet, nous aussi, dans le temps, de proposer des choses qui évoluent et d'encore accroître la sécurité et améliorer la mobilité. Cette canne, elle fonctionne sur un système de détection laser et infrarouge et elle envoie de l'information via de la vibration à l'utilisateur qui lui permet de situer dans l'espace la présence d'un obstacle, mais en l'anticipant plusieurs mètres avant.
Voilà, donc technologie évidemment très innovante que vous pouvez retrouver également en discutant avec Émilie, donc chargée de développement au niveau de l'association des chiens guides d'aveugles. Donc c'est le stand C10 qui est non loin de l'entrée du salon autonomique. Hein, si vous rentrez au salon autonomique, c'est sur votre gauche. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles et salariés de cette association. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup à vous.
Merci Jean-Philippe. D'autres interviews bien sûr à retrouver tout au long de cette journée jusqu'à 17h. Je rappelle, nous sommes en direct du Salon Autonomique à Lille aujourd'hui et demain. On repart en musique avec Zazie Zen sur Radio Plus.
Qui se prennent à mon filet de voix, pauvre pêcheur. Oh, fallait lire entre mes lignes, ne pas mordre à mes sautes d'humeur, même si je n'en suis pas.
Avec les filles, je ne sais pas,
je ne sais pas
quand il faut ou quand il faut pas,
quand il faut pas
parler du temps ou bien parler d'amour, aller chez moi ou faire la cour. Quand l'une d'entre elles me dit pour qui vous me prenez, je ne suis pas celle que vous croyez. Je me dis ne te fais pas d'illusions, rentre tout seul à la maison.
C'est Pompon, mon copain de toujours, qui l'emmène chez lui, disant viens faire un tour, et moi je reste là.
avec les filles, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Quand il faut ou quand il faut pas.
Quand il faut pas.
Parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez moi ou faire la cour.
Avec les filles, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Quand il faut pas,
ou bien parler d'amour, aller chez moi ou faire la cour. Mais si Pompon était plus beau que moi, il est moche et fauché, je sais ce qu'il me doit, je ne vois pas ce qu'il a pour plaire mieux que moi. Avec les filles, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Quand il faut ou quand il faut pas.
Quand il faut pas.
Parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez moi ou faire la cour.
Avec les filles, je ne sais pas.
C'est toujours le contraire de ce que nous dit un ami. Pas Pompon, Marcel, vous savez, Zanini, le playboy. Lunettes américaines, moustache américaine, chapeau américain, lui il sait, mais moi je ne sais pas.
Quand il faut ou quand il faut pas, quand il faut pas, parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez lui ou faire la cour avec les filles, il ne sait pas.
Ce temps-là, nous n'avions pas grand-chose, mais nous aimions ici nous retrouver. Ce soir sans toi, je me sens l'âme triste. Ta place est vide et le monde a changé.
Priorité au direct sur Radio Plus, nous allons retrouver Jean-Philippe avec un nouvel invité. On va parler de stand sensoriel, je crois.
Oui, tout à fait. Je suis en compagnie de Raphaël de la société Cénomi. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous présentez sur le stand qui se situe donc au sein de la Maison de l'Autonomie ?
Oui, aujourd'hui, on a la chance d'être dans la Maison de l'Autonomie pour présenter un espace multisensoriel interactif. Ce sont des espaces qu'on va retrouver généralement dans les institutions, mais aussi parfois au domicile de certaines personnes en situation de handicap, avec la particularité près que c'est accessible à tous, peu importe le handicap moteur. Et on va pouvoir travailler sur les versants du loisir, de la relaxation, mais aussi de la stimulation des apprentissages.
Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a sur votre stand ?
Alors ici, on est à l'échelle de maquette, hein, on n'est pas dans une chambre dédiée. Mais une personne va pouvoir, moyennant l'appui sur des contacteurs ou sur une tablette type iPad ou même un tapis interactif, elle va pouvoir se repasser. Je viens de montrer un exemple, les buts de la Coupe du Monde de foot. Voilà, donc on a des patients qui veulent se remémorer les bons moments, donc avec le but de Benjamin Pavard, et en le sélectionnant, donc c'est projeté directement à l'écran. Et au moment où il y a le but, il y a toute la célébration avec la salle qui va s'illuminer au moment où le but est marqué. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après, quelqu'un qui est pour les enfants tout jeunes, on va pouvoir raconter des histoires en appuyant pas à pas sur un contacteur. Mais aussi, on va travailler aussi sur des éléments vibro-acoustiques, participer à un saut en parachute, participer à un feu d'artifice ou encore même un voyage en avion ou en train.
Alors si on souhaite plus d'infos sur vos produits Cénomi, comment fait-on ?
Alors aujourd'hui, sur le salon autonomique, on est présent sur le stand A39 et on est présent dans la Maison de l'Autonomie. On va aussi animer, ce matin, on a animé le forum d'Omea avec les présentations des technologies à 11h. Demain, à la même heure, il y aura une nouvelle présentation. Et sur les aspects communication alternative, justement les solutions pour les personnes qui ne sont pas en mesure de parler ou communiquer, là il y a une présentation à 13h tout de suite sur le grand forum. C'est Marilyn Poueto, maman de Hugo, qui est un enfant non-verbal, qui va expliquer son parcours de maman avec Hugo pour enseigner la communication.
Eh bien merci beaucoup Raphaël pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous représentez la société Cénomi et qu'on retrouve toutes les infos sur votre site www.cenomy.fr. Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Le but de Pavard en sensoriel. Je vais faire un petit tour pour aller voir comment ça rend.
Oui, complètement. C'est très sympa. Du coup, au moment du but, on a plein d'illuminations, des spots, etc. Donc, c'est vraiment très, 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 très sympa à voir.
Ouais, y a plein de choses, en tout cas, à tester lors de ce rendez-vous qui est le salon autonomique. Qui bien sûr vous accueille jusque 18h en ce mercredi et jusque 17h demain jeudi. Nous on sera en direct jusque 17h aujourd'hui et demain. On va se retrouver dans quelques instants, de nouvelles interviews également à retrouver tout au long bien sûr de l'après-midi. C'est en musique que l'on va repartir à présent sur Radio Plus. Alain Bachung, Vertige de l'amour.
Il a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non, mais t'as vu ce qui passe. Feuilleton à la place. Oh, oh, vertige de l'amour. Tu chopes des sphères à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les points de point. Au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante.
Sur Radio Plus, vous écoutiez à l'instant Alain Bachung avec Vertige de l'amour et nous sommes ensemble à l'occasion, je vous rappelle, de ce salon autonomique, salon dédié au handicap, au grand âge également et à l'autonomie. Alors on vous fait découvrir comme ça tout au long de cette journée et des deux jours de ce salon d'ailleurs, des innovations, des rendez-vous, des initiatives à ne pas louper autour du handicap, autour de l'amélioration de l'autonomie ou tout du moins de la lutte contre la perte de l'autonomie. Plusieurs stands hein, vous sont également proposés à tester. Vous aurez l'occasion eh bien, de découvrir les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en fauteuil roulant et les personnes déficientes visuelles. Vous pouvez également vous faire masser. Ça, c'est juste en face du stand de Radio Plus. Des massages thérapeutiques qui vous sont proposés. Et puis, bien sûr, buvette et restauration sur place pour profiter de ce salon au mieux tout au long de la journée et tout au long de ces deux jours. D'ailleurs, beaucoup d'échanges et de choses à voir, en tout cas de rythme. Aussi dans les échanges, il y a de très très nombreux exposants qui sont au rendez-vous, séparés en plusieurs secteurs. Vous allez retrouver bien sûr les stands dédiés aux déficiences sensorielles, les stands dédiés aux aides techniques et aux services adaptés, les véhicules adaptés également et les transports collectifs. Et puis tout un pan dédié au tourisme, à la culture, aux loisirs ou encore aux associations. Vous avez pu entendre avec nous tout à l'heure par exemple la bibliothèque sonore qui eh bien, est à la recherche de donneurs de voix et de donneurs de temps pour enregistrer des audiobooks, c'est-à-dire des livres qui sont lus et qui peuvent être écoutés par les personnes déficientes visuelles. Les élus, eux, continuent bien sûr leur visite du salon. Il y a d'ailleurs eh bien, pas mal de discours qui ne vont pas tarder à être prononcés. J'attends des informations en ce sens de la part de Jean-Philippe qui devrait m'en donner très très vite. Et puis eh bien, on va poursuivre sur Radio Plus en musique de nouveau. On va retrouver sans plus tarder eh bien, un titre qui est interprété par Indila. Voici Dernière Danse.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Priorité au direct sur Radio Plus. Nous allons retrouver de nouveaux invités en compagnie de Jean-Philippe. Je crois qu'on va retrouver Madame Madi qui doit être, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, adjointe à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Jean-Philippe, est-ce que tu peux me dire si tout est prêt pour toi ? Eh bien voilà, on te prend en direct à l'antenne.
Oui, alors Madame Madi, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Plus. Alors pour vous, le salon autonomique, c'est un moment très important ?
Pour moi, c'est très important puisque c'est le lieu où toutes les personnes en situation de handicap ou les familles peuvent découvrir de nouvelles technologies qui peuvent permettre d'améliorer le quotidien aussi bien des aidants que des personnes elles-mêmes qui peuvent gagner aussi en autonomie grâce à des nouvelles aides techniques.
Alors, qu'est-ce qui est fait justement au niveau de Villeneuve-d'Ascq en termes d'accessibilité et de mobilité ?
Alors, Villeneuve-d'Ascq est une ville qui accueille 27 établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Donc on a plus de 5000 personnes qui sont reconnues comme ayant un handicap avéré et reconnues par la MDPH, sans compter les personnes âgées qui ont une mobilité réduite. Mais Villeneuve-d'Ascq, son histoire veut que ces 27 établissements accueillant des personnes handicapées ont fait que le maire, qui avait une volonté bien affirmée de développer une société inclusive, a, dès le début de son mandat, c'est-à-dire en 1977, il a mis un point d'honneur à faire en sorte que la circulation dans la ville se fasse de manière facile, mais qu'également l'accessibilité de l'université soit prévue. Les écoles, on est Villeneuve-d'Ascq, c'est en France qu'il y a eu la première école d'intégration, c'est-à-dire le collège d'intégration Triolo. C'était dans toute la France à Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, on a développé d'autres actions, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie, on fait en sorte que tout soit accessible aux personnes en situation de handicap. On est bien engagé dans cette démarche-là, puisqu'on ne va pas dire que tout est parfait, mais bien, on est quand même pionnier et bien en avance dans l'accessibilité à la fois des services et des établissements qui sont sur Villeneuve-d'Ascq.
Vous dites que tout n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer encore ?
Alors, l'amélioration, elle ne pourra se faire que si et seulement si on met autour de la table tous les acteurs que sont la métropole, les bailleurs, les services voirie, en fait. Voilà, parce qu'on a beau mettre, nous, par exemple, la collectivité en accessibilité de nos établissements, si la voirie, les transports ne suivent pas, il manquera quelque chose, quoi. Donc, je pense que c'est l'affaire de tous. Et en plus, ce qu'on fait pour les personnes avec un handicap sert aussi à tout le monde, au public au sens large, en fait. Hein. C'est pour ça qu'à Villeneuve-d'Ascq, on parle d'accessibilité universelle et de haute qualité d'usage. Pour nous, l'accessibilité ne se résume pas uniquement à la réglementation, à la norme. On a pour point de mire de faire en sorte que ce qu'on fait comme action pour rendre accessible soit effectivement accessible en termes d'usage pour la personne.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je suis désolé, on est obligé de s'arrêter, mais on pourra évidemment poursuivre la discussion plus en détail si vous le souhaitez au stand de Radio Plus. Merci à vous.
Voilà,
merci,
on la recevra évidemment avec plaisir au stand de Radio Plus, comme d'autres exposants que nous allons vous proposer de découvrir tout au long de ces deux jours à passer ensemble. Là, eh bien, ce sont les publicités qui arrivent sur Radio Plus. On se retrouve évidemment très vite sur le 104.3 ou en DAB+, ou encore sur notre site internet Radio.